Bonjour, bienvenue à cette carte blanche de Nullion Racinaliste. Je me présente parce que d'habitude, ce n'est pas moi qui présente les cartes blanches, c'est notre collègue Daniel Kunt, l'astrophysicien, mais il est en ce moment en observation à l'Observatoire de Haute-Provence. Donc c'est moi qui le remplace. Je suis Michèle Leduc, je ne suis pas astrophysicienne, je suis une physicienne du domaine de la physique quantique. Je travaille à l'École normale supérieure et je suis liée au comité d'éthique du CNRS, ce qui me donne une raison particulière de m'intéresser au sujet que va traiter ce soir François Graner. Donc, un petit mot tout de même pour ceux qui ne sont peut-être pas membres ou qui ne connaissent pas bien l'Union rationaliste, parce que cette conférence attire peut-être d'autres personnes du public qui ne connaissent pas bien l'Union rationaliste. Donc, je voudrais vous dire un petit mot de l'Union rationaliste pour commencer. C'est une association qui est très ancienne. Elle a été créée en 1931, en particulier par le grand physicien Paul Langevin. Et donc, elle était, dans ses textes fondateurs, destinée à faire connaître au public les grandes découvertes de la science contemporaine et de souligner les problèmes posés par ces découvertes, ce qui va bien, je pense, avec l'optique qui est prise aujourd'hui pour cette conférence. Mais enfin, il était question de l'esprit et des méthodes du travail scientifique dans les textes fondateurs, et je pense que ça s'applique plus que jamais à l'époque actuelle, avec le combat qui est mené par l'Union rationaliste contre l'ignorance, et pour aussi maintenant, puisque la société a quand même changé, pour refonder les rapports entre la science et la société, lutter contre les fake news, se préoccuper de la culture et de l'humanisme et des questions éthiques. Voilà. Alors l'Union rationaliste a deux revues. L'une s'appelle les Cahiers rationalistes. Elle existe depuis le début de l'association. Et une autre qui s'appelle Raison présente, qui a été créée en 1966 et qui a bientôt 60 ans. Donc, il y a quelques exemplaires là, et la conférence que vous allez entendre de François Graner est largement, je pense, inspirée d'un article qu'il a écrit dans le dernier numéro de Raison présente, j'en dirai un mot. Voilà, l'Union rationaliste fait aussi donc des cartes blanches, c'est-à-dire des conférences débats. Elle a une émission de radio le dernier dimanche de chaque mois, qui dans le cadre de France Culture et aussi bon que fait l'Union rationaliste, elle organise des débats, elle fait des communiqués, elle écrit des éditoriaux, elle a un site qui est très riche. Si vous êtes intéressé, je vous invite à le regarder. Et elle distribue des prix. Elle est présidée maintenant par François Héran, qui est le professeur qui tient la chaire du Collège de France sur l'immigration. Et elle donne aussi des prix. Voilà. Enfin, elle fait beaucoup de choses. Donc, je vous invite vivement à vous y intéresser de près. Alors, je dois vous présenter maintenant François Graner, notre orateur. François Graner, c'est un biophysicien. Il est directeur de recherche au CNRS. Son laboratoire s'appelle Laboratoire Matière Système Complexe. C'est un laboratoire du CNRS et de l'Université Paris-Cité. Ces thèmes de recherche ont été très longtemps sur la physique des bicouches, la mécanique dynamique des mousses et des bulles de savon. Enfin, pas seulement, mais je me souviens de magnifiques expériences réalisées par François pendant l'année mondiale de la physique, qui était une immense bulle de savon qui couvrait toute une façade. Je ne me trompe pas. Bon, maintenant François se présente plutôt comme un physicien qui travaille sur les liens entre la physique microscopique et le monde qui nous entoure. J'ajoute qu'il s'intéresse donc beaucoup à la diffusion de la culture scientifique. Je veux citer une des expériences pour le grand public qu'il a faites, mais il en a fait beaucoup. Et il est membre, ainsi que moi-même, du comité de rédaction de la revue Reflet de la physique, et la revue de la Société française de physique. Donc c'est ainsi que j'ai l'habitude de travailler avec François pour la diffusion de la culture scientifique. Voilà. Je signale aussi, mais c'est tout à fait hors sujet, qu'il s'intéresse aussi à la politique publique du gouvernement français, puisqu'il a écrit un livre et il s'est beaucoup activé pour la politique française dans le génocide des Tutsis. Ça n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais vous pourrez l'interroger si vous voulez, parce qu'il a écrit un livre qui avait attiré l'attention de Raison Présente, qui en avait fait une recension. Alors, un mot sur Raison Présente. Raison Présente, cette revue, elle fait des dossiers, et vous en avez quelques exemplaires ici. Le dernier dossier s'appelait « Tout est-il souhaitable en recherche ?». C'est dans ce dossier où il y avait beaucoup de contributions diverses, en particulier celle de la présidente du comité d'éthique actuel et celle de François. Et donc, je pense que ce que François Graner va nous développer va recouper un certain nombre des articles plus particuliers qui sont dans cette revue. Voilà. Donc, j'ai à peu près fini de proposer, de présenter cette conférence. Elle va s'appeler « Faut-il interdire la recherche ?». Alors, je pense que vous avez tous perçu que ce titre provocateur n'est pas à prendre au premier degré, puisque, évidemment, je ne pense pas qu'on puisse ni interdire, ni même souhaiter interdire la recherche, et ça serait un peu contraire à l'essence même de l'Union rationaliste. Donc, vous allez voir comment il va développer son sujet, et donc, je lui passe la parole.
Bonsoir. Merci beaucoup aux organisateurs de cette soirée, et merci à vous d'être venus, soit physiquement, soit en ligne pour ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? Bon. Michel m'a présenté, donc je ne vais pas me représenter. Effectivement, je voudrais juste compléter sur le fait que j'ai fait beaucoup d'activités de diffusion scientifique et que maintenant, l'effort que je fais dans ce sens-là, c'est sur les questions de débat qui relient la science et la société, disons. Et comme on est censé le faire, j'essaie de séparer les faits et les opinions. Et donc ce soir, je vais essayer de bien séparer les deux. En particulier, je voudrais préciser que j'engage pas mes tutelles. Je ne parle pas au nom ni du CNRS ni de l'Université Paris-Cité. C'est une réflexion qui est personnelle, appuyée sur beaucoup de discussions d'une part et sur une interrogation qui est historique. Je reviendrai un petit peu sur l'histoire de cette question. Pour commencer, je voudrais définir qu'est-ce que je mets dans le périmètre derrière le mot recherche. Alors, pour moi, là, ça va être un petit peu tout ce qui permet des découvertes ou des inventions, disons, tout ce qui permet soit des nouvelles connaissances, soit des nouvelles possibilités d'action sur le monde. Alors, ça recouvre de façon très très large, la recherche, qu'elle soit académique ou industrielle, qu'elle soit dans toutes les disciplines, en sciences humaines ou expérimentales, la recherche civile ou militaire, celle qui est financée sur fonds publics ou privés, et qu'on va dire qui est à motivation fondamentale ou à motivation appliquée. Pourquoi je distingue pas tout ça ? Parce que dans le sujet d'aujourd'hui, ce qui va compter, ce n'est pas les motivations ou l'origine des fonds, c'est les retombées. Or, en recherche, toutes les retombées sont mises dans un ensemble commun et peuvent avoir des retombées appliquées ou fondamentales, civiles ou militaires, complètement indépendamment des motivations qui sont à l'origine. Et alors justement, les motivations, il y en a beaucoup pour faire de la recherche, les motivations des individus en tant que chercheurs, les motivations des institutions dont ils font partie et les motivations des financeurs, il y en a énormément. Et donc beaucoup peuvent être jugés subjectivement, bien sûr, comme étant des motivations excellentes. Et des retombées positives, il y en a énormément. Je les connais bien personnellement. J'ai contribué beaucoup à les mettre en avant et à les rendre publiques. Elles sont beaucoup discutées dans le débat public. Et donc, je pense qu'on ne va pas passer la soirée à accumuler les retombées positives de la recherche. C'est surtout que ça serait un débat qui serait incomplet parce que une des retombées qu'on met en avant comme une retombée positive de la recherche, c'est de créer un groupe d'êtres humains qui développent un esprit critique, un esprit de réflexion. Et alors, je pense que c'est bien que cet esprit de réflexion s'applique à soi-même. Et donc, le sujet de ce soir, c'est de compléter ces aspects positifs par des aspects négatifs qui, eux, sont souvent peu connus, peu discutés, ou quelquefois même ne le sont pas du tout. Donc, mon plan de ce soir va suivre effectivement le plan de mon article. C'est d'une part de commencer par l'impact direct de la recherche, qui est souvent peu discuté. Et je vais prendre un exemple détaillé. Je vais prendre l'exemple de la recherche en virologie. Et puis après, j'enchaînerai sur l'impact indirect de la recherche. Alors là, je pense que c'est très très peu discuté. Et je finirai par une conclusion personnelle. Voilà. Alors, je vous encourage beaucoup à me poser des questions pour m'interrompre si c'est des questions de clarification. Parce que s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ça veut dire que je n'ai pas été clair et que donc les autres personnes n'ont pas compris non plus. Et donc, vous ferez du bien à tout le monde en levant la main et en me demandant de préciser tel ou tel point. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. Par contre, tout ce qui est des questions qui impliquent du fond, du débat, gardons-les pour la fin. Je vais essayer de me limiter à un temps tout à fait raisonnable pour que, avant qu'on soit tous épuisés, il y ait encore assez de temps pour qu'on puisse échanger, avoir une vraie séance de questions-réponses. Et donc, déjà avant que je commence, est-ce qu'il y a déjà des questions de clarification, des choses qui ne sont pas claires que vous voulez que je précise? Non? Ça va? Donc on est parti? Voilà, écoutez, ça démarre. Alors, donc je vais commencer par l'impact direct de la recherche et la difficulté de faire une analyse bénéfice-risque. J'ai essayé de faire un petit peu une liste des critiques qui sont adressées à la recherche. Et je me suis aperçu que cette liste est à la fois... Les critiques sont souvent assez floues, mais surtout elles sont très disparates. Donc je vais vous faire un peu un catalogue, c'est un peu inévitable, parce qu'elles sont d'ordre très très différent, les critiques qu'on peut adresser à la recherche. Alors la première, c'est, tout ce qui concerne l'impact écologique. Là, il y a une prise de conscience récente. Beaucoup de laboratoires commencent à essayer d'estimer le bilan carbone, ou même certains, les plus audacieux, essayent de faire une analyse plus globale, ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, qui essaye de prendre en compte non seulement le bilan carbone, mais tout ce qui est bilan environnemental, coût en énergie, impact sur les ressources en matière, enfin une analyse un peu plus complète. Et tout le monde est d'accord, il y a un consensus sur le fait que les personnes qui font de la recherche font partie des gens sur la planète qui ont un fort impact par personne. Le volume global de la recherche, ça dépend de l'activité de recherche à l'échelle de la planète, mais chaque personne a un gros impact. Même les gens qui font de la théorie ou des sciences humaines ont un gros impact du fait de l'utilisation des missions et du numérique, qui devient de plus en plus lourd dans notre impact écologique. Et évidemment, les gens qui sont en sciences expérimentales ont un impact encore plus grand, du fait, pour plein d'aspects différents, que ce soit des très grandes expériences, que ce soit des petits consommables en grande quantité. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement à la fois discutable et discuté, enfin, je veux dire, analysable et analysé. Il y a une autre série de critiques qui est abordé, qui est la partie des accidents, l'impact accidentel de la recherche, et notamment les impacts sur la santé humaine, donc j'y reviendrai avec la question de la recherche en virologie, mais par exemple, moi j'ai un de mes collègues qui a fait de la collecte sur le terrain dans un écosystème un peu particulier, et il n'avait pas pris les précautions qu'il fallait, il a été à l'hôpital pendant un an et demi, des conséquences de ce qu'il a apporté. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est quelles sont les conséquences de ce type d'activité de recherche dans des écosystèmes compliqués. Qu'est-ce que les chercheurs apportent comme pathogène à l'écosystème en question ? Lui-même, s'il s'est contaminé, il a très bien pu apporter des bactéries ou d'autres pathogènes nouveaux dans cet écosystème. Et là, on est incapable de l'analyser, ce genre de choses. Alors, toujours dans les accidents, mais d'une nature très très différente, il y a des gens qui imputent à la recherche les conséquences des activités industrielles dont la taille ou l'impact ont été permis par les progrès de la recherche. Alors typiquement, les explosions, comme l'explosion de Bhopal ou l'explosion du port de Beyrouth, ou bien les marées noires, les marées de plastique, tout ça, ce sont des accidents industriels, mais dont certains disent qu'ils n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu un siècle ou quelques siècles d'activité de recherche en amont. Ensuite, il y a toute une catégorie de critiques qui adresse le côté militaire. Alors, c'est d'ailleurs la source de cette question, hein, du point de vue historique. Elle a été posée dès la Première Guerre mondiale à cause de l'utilisation de la chimie, et avec un point de départ peut-être qu'on peut dater, qui est le conflit dans le couple entre Clara Immerwahr et Fritz Haber. Elle-même a désapprouvé l'utilisation des recherches chimiques de son mari et du fait qu'il dirigeait des attaques au gaz sur le front ouest puis sur le front est, et elle s'est suicidée à ce moment-là. Mais juste après la Première Guerre, la question du rôle de la chimie et de la recherche en chimie a été posée par l'historien Jules Isaac, et j'y reviendrai un petit peu. La Deuxième Guerre, évidemment, a posé la question de l'utilisation du nucléaire, du projet Manhattan, et la question « faut-il arrêter la recherche ?» a été posée directement à Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Ça lui a été posé peu après la Deuxième Guerre, et lui, il a répondu que non, il ne fallait pas l'arrêter, parce que ce n'était pas moral de l'arrêter. Mais la question a bel et bien été posée, et puis elle a été reprise à plus grande échelle par beaucoup de gens, pendant la guerre froide, en particulier au début des années 1970, et ça a été popularisé notamment par le mathématicien Grothendieck, qui a fait des conférences, des articles sur la question. Et alors, un dernier aspect, dans le catalogue que je fais des critiques qui sont adressées à la recherche, c'est les conséquences sociales ou sociétales. Et là, il y en a beaucoup, très variées. Par exemple, si je vous cite quelques exemples, la création de nouvelles drogues sans cesse et des drogues de moins en moins chères, toutes les questions d'utilisation de la psychologie ou de la sociologie pour manipuler l'individu via la publicité, par exemple. Il y a le fait globalement que la recherche sert à la compétition et donc augmente les inégalités entre ceux qui ont accès à la recherche et ceux qui n'ont pas accès, par exemple. Et puis, d'autres personnes mettent en avant la question, par exemple, de l'utilisation du diagnostic avant la grossesse ou pendant la grossesse, qui aboutit à une création de normes, entre guillemets, sur les individus ou sur la société, sur le type d'humanité qu'on est en train de créer. Alors, voilà pour cette espèce de catalogue des critiques qu'on peut adresser à l'impact, aux retombées de la recherche. Et la question après, c'est est-ce qu'on est capable de faire une analyse bénéfice-risque ? C'est-à-dire, dans beaucoup d'activités de la vie quotidienne, soit à titre individuel, soit en tant qu'institution, on prend des décisions et pour ça, on estime qu'est-ce qu'on attend comme retombée positive, qu'est-ce qu'on attend comme risque possible, et est-ce qu'on peut pondérer, mettre en balance l'un et l'autre. Et toute la noblesse des décisions politiques, au sens noble, c'est de dire on met en balance des arguments qui sont de nature très très différente et on essaie de prendre une décision la plus, on va dire, sensée possible, prenant en compte tous les aspects humains et autres. Bien. Or, je pense que dans le cas de l'activité de recherche, cette analyse bénéfice-risque, elle n'est pas faisable, elle n'est pas valide, pour au moins trois raisons de fond, liées aux spécificités de l'activité de recherche. Alors, la première, c'est que les bénéfices sont beaucoup moins faciles à anticiper. Du fait qu'on crée de la nouveauté, on ne sait pas très bien. Par exemple, les gens qui ont développé, je prends des exemples du XXe siècle, les lasers ou les semi-conducteurs, étaient incapables de prévoir toute l'utilisation qu'on en fait actuellement. Et par exemple, l'ensemble de l'électronique et du numérique découle actuellement des inventions liées aux semi-conducteurs et dont beaucoup étaient très largement imprévisibles actuellement. Donc je pense qu'en particulier, les gens qu'ils ont créés ne pensaient pas que la première application, ça serait la diffusion de vidéos de chats, par exemple, à travers la planète. Ensuite, les risques aussi sont beaucoup moins faciles à anticiper. D'abord parce qu'ils sont flous, comme j'ai dit, hein, ils sont très disparates, mais aussi, ils sont nouveaux. Par définition, les risques qui sont, du fait qu'on crée de la nouveauté avec la recherche, les risques qui se créent sont nouveaux. Et donc, on ne peut pas faire l'outil essentiel de l'analyse bénéfice-risque, c'est l'extrapolation du passé pour définir des probabilités et des amplitudes de risques. Et ça, on ne sait pas le faire pour la recherche. Et notamment, c'est un des obstacles auxquels se heurtent les compagnies d'assurance, parce que les compagnies d'assurance, leur métier, c'est d'extrapoler le passé. Et ça, pour la recherche, eh bien, elles sont face à un mur qui est fondamental, une absence de faisabilité. Et puis, même la comparaison ensuite. Imaginons qu'on sache faire l'analyse des bénéfices et l'analyse des risques. Les mettre en balance est beaucoup plus compliqué pour la recherche que pour d'autres activités. D'abord parce que ça touche pas du tout les mêmes personnes, très souvent. Hein, les inconvénients et les avantages ne touchent pas les mêmes personnes. Bon, ça, c'est classique pour beaucoup d'activités, peut-être. Mais là, pour la recherche, si je prends, par exemple, de la recherche en agronomie, typiquement, les petits agriculteurs et les gros agriculteurs ne vont pas être impactés de la même manière par les retombées de ce qui est développé. Les lieux, vous avez les endroits, les zones géographiques qui vont bénéficier des résultats de la recherche ou celles qui vont être impactées ne vont pas être les mêmes, nécessairement. Si vous avez des recherches sur les batteries, vous allez impacter positivement le développement des voitures électriques et donc la pureté de l'air dans des métropoles des pays riches. Et par contre, vous allez impacter l'extraction du lithium et donc les mines, par exemple, au Chili. Et puis, surtout, ça s'applique à des époques différentes. Et donc, on bénéficie encore des retombées de la géométrie grecque, enfin des recherches de la géométrie grecque ou de l'optique arabe au Moyen-Âge ou des nombres complexes pardon, à la Renaissance. Et donc tout ça, si vous faites du fait qu'on peut avoir des retombées encore des siècles après, si vous faites une analyse bénéfice-risque, qu'est-ce que vous devez la faire à l'échelle de quelques semaines, auquel cas vous allez avoir très peu de retombées positives et négatives, parce que la recherche en a peu généralement à l'échelle de quelques semaines. Est-ce que vous l'avez faite à l'échelle de quelques années? Est-ce que vous la faites à l'échelle de quelques siècles? Voilà, ça c'est un problème qui est donc fondamentalement difficile à poser. Alors, et puis même, admettons même, supposons même que l'analyse puisse être valide. Eh bien, un des problèmes liés à la recherche encore, c'est qu'on n'a pas de rétroaction. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas capable de dégager de l'information permettant de rétroagir sur la recherche en temps utile. Par exemple, on n'a pas d'indicateurs, de bons indicateurs pour déterminer si des résultats de recherche sont considérés comme bénéfiques ou ne le sont pas. Et surtout, il y a des biais très forts pour l'estimation de ces retombées, parce que beaucoup de gens, les individus, les institutions, sont encouragés à mettre toujours en avant les retombées positives et à décroître les retombées négatives. Quand on fait une recherche de financement, quand on fait une annonce d'une fête de la science, de la vulgarisation dans le public, on met toujours en avant les aspects positifs et jamais les retombées négatives. Alors, mais aussi, on n'a pas de levier de rétroaction. De manière d'agir. Alors d'une part, comme j'ai dit, les questions de l'échelle de temps se posent. Si vous avez des débats actuellement sur la recherche dans des manipulations du génome par différentes techniques, et que vous en avez des retombées attendues, eh bien, vous allez avoir des récoltes les premières années, si vous faites des modifications sur des semences qui vont être mises au champ, vous avez des modifications les premières années qui vont être ce qu'elles sont, sur une augmentation des rendements éventuellement, vous avez des modifications à long terme qui sont éventuellement différentes, et donc le temps de détecter des problèmes éventuels, hein, et de rétroagir ensuite, de prendre une décision collective, eh bien, on va parler de décades, de décennies, pendant lesquelles la recherche elle-même aurait évolué déjà très vite. Et donc, les temps de rétroaction sont beaucoup trop lents par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et ça, pour tous les gens qui savent, qui étudient les questions de rétroaction, on sait très bien qu'il faut cette question des échelles de temps entre le phénomène qui évolue et la rapidité qu'on a pour rétroagir dessus, elle est essentielle. Et là, on est dans la recherche, dans une situation qui, fondamentalement, est défavorable. Alors, l'autre chose, quand je dis qu'on n'a pas de levier, eh bien, on a et les chercheurs, les institutions subissent une pression pour faire toujours de la nouveauté. La structure de la recherche, actuellement, son travail, c'est de produire de la nouveauté. Donc il y a une pression pour faire toujours du nouveau, qui est donc une pression pour faire toujours plus vite, plus haut, plus fort, comme pour les Jeux olympiques. Et donc obtenir aussi une reconnaissance de la nouveauté, de ce qu'on fait, et des publications, etc. Et donc toute cette pression-là, nécessairement, est difficilement compatible avec une réflexion sur la sécurité ou la finalité des activités de recherche qu'on fait. On n'a pas de levier équivalent comme on peut avoir sur une entreprise. Alors, les entreprises ne sont pas vertueuses par essence, elles ont une fonction qui est de faire du profit. Et simplement, si on veut faire rentrer une culture de sécurité dans les entreprises, on a ce levier-là qui est de jouer sur le profit via la taxe, via la punition, via l'incitation financière. Par exemple, l'industrie nucléaire a dû intégrer plus la sécurité dans ses modes de pensée quand le coût restant à charge d'un opérateur après un accident nucléaire a été multiplié par 10, ça a eu un effet plus dissuasif, plus de choses à intégrer dans les réflexions sur la sécurité. On n'a pas du tout ça pour les chercheurs. À ma connaissance, moi je ne connais pas de choses capables de contrebalancer la pression institutionnelle qui va en faveur de la publication et de la nouveauté. Est-ce que sur cette partie-là, vous avez des questions de clarification? N'hésitez pas, si j'ai été trop vite ou pas clair. Est-ce qu'il y en a dans le... Il y en a en ligne?
On vous interroge sur ce que vous entendez par bénéfice, voilà, avec des bénéfices en...
Oui. Alors, j'ai développé plutôt les aspects, les retombées considérées comme négatives et en tout cas qui sont critiquées sur celles de la recherche. Je n'ai pas développé l'ensemble des retombées qui sont considérées comme bénéfiques, positives. Là aussi, c'est évidemment subjectif, hein, ce genre de choses. Il y en a énormément de tous ordres, à la fois en termes, ce qui est mis au crédit de la recherche, ce sont à la fois des avancées en termes de confort matériel, de connaissances, de curiosité, de développement de l'esprit critique. Il y en a de plein d'ordres différents et j'ai dit que je ne vais pas les développer ici ce soir. Voilà. La question est, quand on identifie, qui est capable d'identifier les bénéfices et les risques, qui est légitime pour le faire ou qui peut le faire? Eh bien, là, je pense que j'ai essayé d'exprimer des choses qui s'expriment dans les débats de société. Et je pense qu'actuellement, il n'y a pas une entité qui est chargée de dire ce qui est bénéfique ou ce qui ne l'est pas. Et surtout que c'est une question de l'opinion, donc c'est nécessairement, l'opinion c'est le domaine du subjectif. Et par exemple typiquement le militaire, il y a beaucoup de gens qui considèrent que les retombées militaires de la recherche sont positives, et il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est des retombées négatives, ça c'est typiquement un sujet de clivage. Quand on parle du développement de la curiosité par exemple, ou de l'émerveillement, beaucoup de gens s'accordent pour dire que c'est positif. Et puis des cas très négatifs, voilà, quand, quand on parle de manipulation, manipulation des individus, beaucoup de gens, sauf ceux qui en tirent directement profit, ont tendance à cataloguer ça dans les aspects négatifs. Donc voilà, la subjectivité, elle est plus ou moins partagée. Voilà. Oui. Alors là, on rentre dans une question de débat. Donc si vous voulez bien, je garde cette question sur la fin. Ce n'est pas une question de clarification. Mais c'est, la question était, est-ce qu'il y a, à défaut de levier de régulation, est-ce qu'il y a des instances comme les comités d'éthique qui peuvent intervenir? Donc là, je reprends la question pour après. Oui. Alors là, on reprend. Gardez votre question pour tout à l'heure. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres? Ou je continue? Oui.
Voilà, qui intervient en disant, mais je crois que c'est la suite de ce qui est plus haut, qu'il y ait eu parfois des moratoires, par exemple en recherche génétique.
Alors typiquement, là on rentre aussi dans des questions de fond, donc je préfère garder la question pour après, si vous voulez bien la noter. Voilà. La question, c'est, est-ce qu'il y a eu des moratoires en recherche, par exemple notamment sur la génétique? Oui. Donc je continue? Alors, j'ai dit que je développerais comme exemple la recherche en virologie, et je vais prendre comme point de départ ce que nous a appris le Covid, Covid-19, et qui est, il nous a appris en particulier deux choses. C'est que durant la pandémie, et notamment en 2021, il y a eu plusieurs accidents de laboratoire documentés, dont un à Pékin, à Beijing, et un aussi à Taïwan, dans un laboratoire qui était de niveau de sécurité 3, donc un des niveaux les plus élevés, une chercheuse qui s'est fait mordre par une souris contaminée. Donc ça a été à deux reprises d'ailleurs, 15 octobre et 19 novembre 2021, et ça a été la deuxième fois. Ça a été très documenté, le labo a été sanctionné, la personne aussi, et puis ça a été, les causes et les conséquences de l'accident ont été bien documentées. L'autre chose que nous a appris la pandémie, c'était qu'en 2022, donc le 17 octobre, on a eu une publication par le laboratoire NIDL de l'Université de Boston, donc c'était en pleine pandémie et en pleine ville, d'un laboratoire qui a combiné le variant Omicron avec le variant initial de Wuhan. C'est-à-dire, le variant initial de Wuhan était très létal, le variant Omicron était très contaminant, mais tout le monde avait dit « ouf, heureusement, il est contaminant, mais il n'est pas très létal ». Or, justement, ce labo de recherche a combiné les deux pour avoir un virus qui est à la fois contaminant comme l'Omicron et létal comme Wuhan. Comme la souche de Wuhan, et ils ont testé ça sur des souris, ils étaient ravis de voir qu'ils avaient 80% de létalité sur les souris. Donc, ce que nous a appris le Covid, c'est qu'à la fois, les accidents de laboratoire existent, même en pleine pandémie, quand des gens sont censés savoir que le virus sur lequel ils travaillent est dangereux et peut avoir des conséquences ravageuses, et qu'en même temps, chercheurs créent des combinaisons de virus qui sont plus dangereuses que chacun des virus initiaux séparément. Et l'idée de ce type de recherche, ce qui est vendu pour promouvoir ce type de recherche sur des créations de virus plus dangereux, c'est de dire qu'il faut qu'on se prépare à pouvoir travailler sur des vaccins. Et le problème, c'est que ce type de promesse existe depuis 2011, et ce type de recherche est mis en avant depuis 2011, sans jamais avoir tenu ses promesses, puisque c'est aussi une des leçons de la pandémie de Covid-19, c'est que ce n'est pas de là qu'est venu les vaccins, c'est pas du fait que des gens avaient eu des catalogues de tous les virus possibles, parce que ça, c'est évidemment impossible, vu la grande variabilité des virus. On ne peut pas se préparer en fabriquant des virus à avoir en stock tous les vaccins possibles contre tout ce qui arrive, et c'est plutôt une capacité de réagir rapidement qui a été mise en avant. Donc, alors maintenant, je voudrais partir de aller non plus sur la question de la pandémie, mais la question de l'origine de la pandémie. Alors, le débat sur l'origine, et là je dois parler de ma situation puisque j'ai un financement moi-même sur la question de la recherche de l'origine du Covid-19 avec trois biologistes. Moi, je suis biophysicien et je suis avec trois biologistes qui sont en biologie de l'évolution et en bioinformaticien. Alors, où en est le débat actuellement? Essentiellement, il y a deux consensus clairs dans la communauté, c'est qu'il y a, il y avait un lointain ancêtre du virus du Covid-19, enfin du SARS-CoV-2, qui était dans les, chez des chauves-souris dans des grottes karstiques tropicales d'Asie du Sud-Est, hein, à la frontière de la Chine, du Laos et d'autres. Et puis, l'autre consensus, c'est que il y a, bah, l'épidémie a commencé, s'est étendue à Wuhan en fin 2019. Alors, il y a trois sous-questions qui, elles, restent complètement ouvertes, qui sont comment le virus s'est transporté sur plus d'un millier de kilomètres, comment la séquence a évolué d'une séquence infectant les chauves-souris à une séquence pouvant contaminer les humains, et comment s'est passée la première contamination humaine. Et sur ces trois questions-là, il y a des interrogations qui est que ça a pu avoir lieu en liaison avec une activité de recherche ou pas. Voilà, et donc il y a trois débats sur les liens possibles de la recherche et de l'origine du Covid-19. Alors le débat est toujours en cours, hein, il n'y a aucune preuve ni réponse tranchée sur aucune de ces trois questions. La France est active sur ce débat et je pense que je peux saluer ici le fait que, par exemple, le CNRS en 2020 et l'Académie de médecine et Sorbonne Université en 2023 ont été trois lieux de débat sur cette question, qui est donc toujours ouverte. Mais je voudrais ici ce soir réfléchir à ce que nous a appris le débat sur l'origine. Mais il nous a appris beaucoup de choses, en fait. D'ailleurs, pour moi, c'est un des points de départ de la réflexion que j'ai ici ce soir. Alors, ce que ça nous a appris, c'est qu'il y avait une collaboration donc, entre Ralph Baric, chercheur en Caroline du Nord aux États-Unis, et Zheng Lixi, chercheuse à l'Institut de virologie de Wuhan, qu'un certain nombre des expériences qu'ils ont faites a été transféré de Caroline du Nord en Chine pour des questions de coûts, et en particulier parce qu'au lieu de travailler en sécurité de niveau 3 aux États-Unis, en Chine, ils avaient l'autorisation de travailler en sécurité de niveau 2. Sécurité de niveau 2, c'est à peu près le niveau de sécurité d'un cabinet de dentiste. Bon, donc c'est... Et ensuite, alors que le niveau 3, c'est des laboratoires en dépression qui font que s'il y a un accident, normalement, les pathogènes ne sortent pas à l'extérieur. Et alors, ensuite, il y a le fait que sur des rapports d'expérience de cette collaboration, on a appris aussi que des souris humanisées permettant de faire des tests de virus et des tests de contamination sur l'humain, mais de les faire sur des souris. Ces souris-là ont été, la Chine avait demandé l'importation. L'importation a été autorisée puis effectuée en 2018, donc arrivée à Wuhan. Et aussi qu'une demande de bourse commune qui a été déposée par cette collaboration auprès de l'Agence de financement militaire américain, la DARPA, mais demande qui était rejetée, hein, qui n'a pas été financée, mais ces chercheurs avaient l'intention de pouvoir insérer dans les virus de chauve-souris les séquences qui ont permis la contamination, de devenir contaminant pour l'humain. Donc au moins, on a la preuve de l'intention et de la coïncidence de temps et de lieu avec, disons, l'émergence de l'épidémie. Et puis, on a ce que nous a aussi appris le débat, c'est qu'à l'occasion de première interview qu'elle a donnée pour la revue Scientific American, la chercheuse Zheng Lixi a dit que l'hypothèse de fuite de labo était d'autant plus vraisemblable que elle, c'est la première chose qui lui est venue à l'idée quand elle a appris l'existence de la pandémie. Le premier soir, elle s'est tout de suite dit « Est-ce que ça vient de mon labo ?» et elle dit qu'elle n'en a pas dormi pendant 5 jours, où elle n'a fait que des vérifications, et où elle dit qu'à la fin, elle a vérifié que ça ne venait pas de son labo. Donc, autrement dit, cette hypothèse, on sait qu'elle est vraisemblable. Voilà. Alors, pour revenir sur ce débat, c'est clair qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas de réponse tranchée actuellement, c'est le fait que la Chine n'a pas favorisé, c'est le moins qu'on puisse dire, la transparence, ni sur la question d'une hypothèse liée à la recherche, ni sur une hypothèse non liée à la recherche, mais aussi le fait que le débat a été verrouillé de février 2020 à mai 2021 dans toute la communauté scientifique. Il y a eu des conflits d'intérêts massifs de scientifiques, et notamment de la communauté de virologie, pour empêcher que le débat ait lieu. Et donc, du fait qu'ils avaient le souvenir des débats anciens qui avaient eu lieu entre 2011 et 2014, qui avaient été défavorables à la communauté de virologie, puisqu'il y avait eu un moratoire en 2014, aux États-Unis, de 2014 à 2017, il y a eu un moratoire sur le financement du type de recherche consistant à rendre plus contaminant un virus. Et d'ailleurs, ce moratoire a aussi était une des incitations qui a contribué à ce que des expériences soient transférées des États-Unis en Chine. Donc, pourquoi j'ai choisi cet exemple ? Parce que je pense qu'il illustre assez bien beaucoup d'aspects de ce que j'ai développé dans la première partie, c'est-à-dire un biais très fort d'estimation des impacts positifs, c'est-à-dire la capacité de ce type de recherche à produire des vaccins. Voilà, ça a été très fortement survendu. Et au contraire, les risques de pandémie ont été sous-estimés, volontairement sous-estimés. Alors que, effectivement, les accidents de laboratoire ont été massivement documentés, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, le moratoire de 2014 venait du fait que l'administration Obama s'était émue du très grand nombre d'accidents de laboratoire qu'il y a eu en 2014 aux États-Unis. Donc, au moment où des gens faisaient des recherches dangereuses, d'autres recherches ont eu des accidents. Et donc, la combinaison des deux a beaucoup inquiété l'administration Obama. Alors, ça illustre aussi la difficulté de l'analyse bénéfice-risque. Parce que si vous dites, oui, ce type de recherche peut permettre d'avoir plus facilement un vaccin en cas de pandémie, mais elle peut aussi favoriser l'apparition d'une pandémie, mais la question est-ce que vous préférez avoir la pandémie et le vaccin ou aucun des deux ? Bon, moi, subjectivement, j'ai fait mon choix, je préfère aucun des deux. Voilà. Et alors, ça illustre aussi la question de l'échelle de temps, la difficulté de corriger a posteriori, bien la rapidité d'extension, la rapidité à laquelle les recherches sont faites par rapport à la rapidité pour corriger, pour détecter, là encore une fois, des recherches qui sont faites essentiellement, qui ont commencé en 2015, faites jusqu'en 2019, on ne sait pas encore si elles sont à l'origine de la pandémie. Donc, si on le détecte, on ne sait pas quand est-ce qu'on le détectera. Si c'est le cas, en combien de temps on prendra des décisions permettant de rétroagir et donc éventuellement d'améliorer les questions soit de collecte, soit de transport, soit de manipulation des virus dans les activités liées à la recherche. Eh bien, voilà, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais en attendant, on a déjà d'autres sujets qui sont arrivés puisqu'il y a déjà beaucoup d'autres recherches qui ont progressé entre-temps. Voilà, donc voilà pour cette partie sur l'exemple de la recherche en virologie. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ?
Moi, j'ai un commentaire.
Les commentaires plutôt pour le débat, si ça ne vous embête pas. Je parlais de questions de clarification. S'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été clair. Non ? Alors, en 2011, c'est des laboratoires européens et américains qui ont commencé à faire des recherches sur la grippe aviaire, qui touchait les oiseaux de façon massive, qui est très dangereuse pour les oiseaux, mais qui ne touchait pas les êtres humains. Et ils ont fait des recherches pour rendre le virus contaminant pour des mammifères. Voilà, c'est ça qui était le point de départ des débats sur la question. Et donc après, il y a beaucoup de laboratoires qui ont fait ça de plus en plus, donc il y en a dans différents pays. Et là, en l'occurrence, ce dont on parle pour le SARS-CoV-2, c'est une collaboration multi-pays, mais où les deux laboratoires principaux qui ont le plus développé les techniques, c'est une collaboration États-Unis-Chine, oui, tout à fait. Oui. Alors, la recherche, les motivations du rejet de ce financement, oui, sont liées à la fois au danger et aussi à l'utilisation dual civil et militaire. Et ça, ils ne voulaient pas financer quelque chose qui se passait en Chine, qui soit dual civil et militaire. C'est les deux. C'est à la fois, ils trouvaient qu'il n'y avait pas de garantie de sécurité suffisante et l'aspect dual. Parce qu'à partir du moment où c'est une agence militaire américaine, ils faisaient très attention à qui financer et dans quelles conditions. Et puis, oui, voilà, j'ai répondu à la question, je pense. Oui. Pardon ? Sur ce financement-là, oui, mais on ne sait pas plusieurs choses. D'abord, si elle a pu être financée par ailleurs. En plus, on ne sait pas si elle a, puisque les souris sont arrivées, si la recherche a été faite de toute façon. Et puis, tous les chercheurs savent très bien que quand on fait une demande de financement, en général, on a déjà fait une bonne partie des manips, et que ça permet au contraire de faire après de financer les choses plus risquées après. Oui.
Ces compagnies qui ont exporté leurs recherches, européens, américains. Est-ce qu'il y a une information au même temps? Qu'est-ce qui se passe avec le cours de leur action sur la bourse?
Alors là, je parle de laboratoire, hein. Je parle de laboratoire universitaire, hein. Laboratoire oui. Économique, académique, pardon.
Oui, académique. Oui.
Académique, oui.
Purement académique.
A priori, oui.
Pas quelque chose qui est privé. Non.
Alors, si. Oui, alors, encore, c'est des questions de clarification encore?
Oui. Oui. Est-ce qu'il est vrai que la personne qui était partie voir dans le laboratoire, il y avait une sorte de mission américaine pour essayer de voir les cahiers de laboratoire et d'essayer de comprendre d'où venait le virus et
vous parlez d'avant ou après le début de la pandémie?
Après le début de la pandémie.
Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Avant le début, en 2017-2018, il y a eu le laboratoire de sécurité de l'Institut de virologie de Wuhan a été construit par les Français, mais les Français ont été écartés dès l'inauguration. Après, les États-Unis ont fait une mission d'inspection en 2017-2018 qui a alerté sur de graves manquements à la sécurité. Mais par contre, après le début de la pandémie, la mission Chine OMS conjointe n'a pas pu avoir accès au cahier de laboratoire et n'a pas pu avoir. Ils ont passé leur mois à Wuhan, ils ont passé les premiers 15 jours en quarantaine et ensuite, dans les autres 15 jours, ils ont pu voir un très petit nombre de choses. Ils n'ont pas pu aborder la question de savoir si l'hypothèse de laboratoire était incluse.
J'avais entendu dire que le représentant américain, enfin celui qui chapeautait le truc, était justement quelqu'un qui avait aussi fait des propositions de recherche.
Oui, il y avait un conflit d'intérêts massif. Entre l'un des responsables des financements et les personnes inspectant. Oui. Alors, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. De ce point de vue-là. Oui, il y avait une question. Oui. Alors, les questions ont été, les recherches ont été publiées. Oui, tout à fait. Et oui, on pourra revenir après dans le débat si vous voulez, mais juste là, oui.
Vous parlez de souris humanisées.
Oui. Oui, alors là, c'est vraiment une question de clarification. Une souris humanisée, c'est quand on veut faire des tests sur les humains, et en particulier des tests de savoir si un virus peut rentrer dans une cellule, si les récepteurs de la cellule vont avec la structure du virus, et s'il peut y avoir effectivement pénétration et contamination, on ne le fait pas sur des sujets humains. Et donc, soit on le fait sur des cellules en culture, et là, ça peut être des cellules de mammifères, divers mammifères en culture, mais si on veut le faire sur un organisme vivant, on ne le fait pas sur des êtres humains, et donc on le fait sur des souris dont on a génétiquement modifié les cellules pour qu'elles aient les mêmes récepteurs que les humains. Et donc elles miment les humains, et donc ça, c'est une technique assez élaborée, et le laboratoire de Wuhan ne disposait pas de ces souris-là, le laboratoire de Caroline Nord en disposait. Et il a fallu une autorisation pour les transposer. Si ça vous va, je continue, et puis on peut garder d'autres questions pour la fin. Alors, je voudrais aborder ce qui, à mon avis, est la question principale, et donc la plus sous-estimée, à mon avis, qui est la question de l'impact indirect de la recherche. Alors là, j'aurais tendance à dire que l'analyse bénéfice-risque, elle est tout à fait faisable, elle est tout à fait solide, et je trouve ça dommage, donc, qu'on n'en parle pas plus. Alors, la question est quand même mise dans le débat public par des groupes dits technocritiques. En France, il y a par exemple le groupe Pièces et Main d'œuvre ou le groupe Grothendieck et quelques autres qui font le lien entre l'activité de recherche et la volonté de puissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, actuellement, on est dans une société qui consomme excessivement tout ce qui est ressources en énergie et en matière, et avec comme conséquence directe, inéluctable, la production de déchets, et là aussi dans une mesure qui est déraisonnable, et là j'utilise les mots excessifs et déraisonnables, je pense qu'ils sont assez consensuels dans la communauté scientifique et même bien au-delà actuellement, c'est-à-dire en termes de soutenabilité pour la planète. Et en fait, on est actuellement dans une crise des trois couplets, on n'est pas dans une crise de l'énergie ou une crise de la matière, on est dans une crise couplée énergie, matière, environnement. Si on regardait que l'énergie, on ne serait pas en crise de l'énergie, mais c'est bien parce qu'on a les trois ensemble qu'il y a un vrai problème urgent et grave. Pourtant, l'ensemble de l'activité des décideurs de la planète semble être de maintenir l'activité économique, maintenir leur volonté de puissance, et même, non seulement la maintenir, mais même l'augmenter, et c'est ce qu'on appelle, et donc faire une compétition pour une volonté de croissance. Et par exemple, ça fait très longtemps qu'on dit la recherche est liée, est considérée par les financeurs comme un moteur de croissance, eh bien ça a été explicitement dit par le président Macron dans son discours sur l'avenir de la recherche du 7 décembre dernier, où il a dit qu'il comptait sur la recherche, effectivement, pour nourrir la croissance. Alors, il est souvent dit dans le discours dominant qu'il y a une solution verte et que l'activité économique pourrait continuer telle qu'elle est actuellement ou même pourrait continuer à croître tout en diminuant les impacts environnementaux. Et donc ça, c'est orienter toute l'activité de recherche et l'activité de l'économie dans cette direction-là, c'est un pari sur l'avenir. Or, il se trouve que ce pari n'a aucune base théorique consensuelle et n'a pas non plus, et ça ne se repose pas non plus, sur des expériences concrètes du passé. En tout cas, pas d'expérience qui soit généralisable. Et ça, pour beaucoup de raisons, cette idée d'une solution verte, d'une croissance verte, du développement durable, tous les mots que vous voulez, qui sont utilisés pour décrire ce type d'approche, eh bien, pour plusieurs raisons, ils sont complètement, à mon avis, complètement invalides. Et je vais en donner quelques exemples. Le premier, c'est que c'est basé sur l'idée d'efficacité. Et c'est vrai qu'il y a des domaines, on peut vous dire on va avoir 20% de consommation en moins par avion, par kilomètre parcouru par avion d'ici 30 ans. On peut vous dire les ordinateurs, depuis 70 ans, ils ont fait des gains à l'époque, disons à la Seconde Guerre mondiale, un ordinateur c'était une pièce entière. Ben, les ordinateurs ont fait des gains en efficacité, en taille, en vitesse, en coût, en énergie par opération qui sont absolument sidérants. Là, on ne parle pas de 20%, on parle de gains massifs. Bien, mais il y a ce qui s'appelle l'effet rebond, qui gomme une grande partie des gains en efficacité. L'aviation, si on vous dit 20% de mieux, mais que les projections, c'est de doubler le trafic aérien, vous voyez bien qu'on n'est pas dans la même classe. Et les ordinateurs, même chose, si vous regardez l'impact du numérique actuellement et au moment de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, je crois qu'il n'y a pas de comparaison possible. L'efficacité par opération individuelle n'a pas beaucoup de sens dans l'analyse qu'on fait aujourd'hui. Alors, il y a l'invocation d'une économie circulaire. Et ça, c'est-à-dire qu'on pourrait continuer à extraire, à produire des biens et des services, mais avec un recyclage idéal. Or, ça, eh bien, c'est très intéressant, parce que le vocabulaire utilisé, le type d'approche utilisé, est exactement celui qu'on avait pour promouvoir les machines à mouvement perpétuel jusqu'à il y a deux siècles, donc pour dire qu'on allait extraire du travail de machines à mouvement perpétuel. Et quand vous regardez, même si certains scientifiques essaient d'être un peu prudents sur les affirmations qu'ils font sur le recyclage, les économistes et l'ensemble des gens et la plupart des politiques dans la majorité des secteurs qui parlent d'économie circulaire sont complètement déconnectés de la réalité en termes d'énergie, en termes de matière, et donc c'est plutôt de la pensée magique, au même titre que le mouvement perpétuel. Alors il y a la question de décarboner, on dit souvent décarboner. Alors déjà, ramener la croissance verte, dite verte, à décarboner, ça veut dire qu'on a ramené toute la question de l'empreinte environnementale et des coûts en énergie et matière à juste une question qui est celle du climat, et on a ramené le climat uniquement à la question du gaz carbonique. Donc c'est une réduction très très forte. Alors évidemment, si on se ramène à ça, c'est beaucoup plus facile. Se ramener à limiter les émissions de carbone, c'est plus facile que de diminuer complètement l'empreinte environnementale. En plus, d'autant plus que très souvent, on ne parle pas de décarboner toute l'industrie, mais on parle de décarboner que l'énergie, et même quelquefois, on parle que de décarboner l'électricité. Mais bon, ça dépend des discours. Donc un des exemples de ça, on dit qu'il faut passer toute la voiture, tout le transport en électrique. Ça c'est typiquement quelque chose qui a un impact énorme sur les matières et sur beaucoup d'autres choses, mais essentiellement, donc, je parle des matières pour les batteries, mais pas seulement, l'ensemble de l'effort qu'on veut faire pour passer tout en électrique et globalement décarboné, donc juste sur un des points des urgences qui nous attendent, eh bien, rien que pour ça, il faut doubler en 20 ans la quantité de matériaux que l'humanité aura extrait depuis ses origines. C'est-à-dire qu'on va, dans les 20 prochaines années, extraire autant de matière que tout ce qu'on a fait depuis l'origine de l'humanité, si on veut arriver à satisfaire juste ce point-là, qui est le point de la décarbonation. Et plus généralement, hein, c'est un exemple très précis de le passage à l'électrique, c'est un exemple de fausse bonne idée, où vous, pour résoudre un problème, d'un point de vue technique, vous allez déclencher en cascade des inconvénients sur d'autres aspects. Et ça, c'est un problème de fond, c'est-à-dire que quand vous cherchez une solution technique au problème créé par la technique, ou une solution par la recherche au problème créé par la recherche, eh bien, quand vous êtes face à un problème complexe, un problème complexe, c'est-à-dire où il y a plein de degrés, de leviers, de types d'actions en même temps, si vous agissez sur un, vous allez pouvoir le régler éventuellement, mais nécessairement, sur l'ensemble de la complexité, vous ne pouvez pas garantir que tous vont être améliorés, donc, statistiquement, il y en aura au moins un, et souvent plusieurs, qui vont être détériorés. C'est juste... C'est pas une malédiction, c'est juste la caractéristique d'un système complexe, c'est que vous ne maîtrisez jamais tous les aspects à la fois. Et donc, un des exemples, par exemple, on voit bien, les gens ont quand même une réticence quand on parle de géo-ingénierie, qui est discutée dans le dossier de la raison présente, on voit bien que les gens sentent qu'on va peut-être résoudre un petit peu des questions de climat, mais on sent qu'en touchant là, on va toucher nécessairement à des choses sensibles par ailleurs, on ne sait pas bien quoi, mais on va créer des catastrophes par ailleurs. Alors, quel rôle peut avoir la recherche là-dedans? Eh bien, est-ce que la recherche peut être la base des solutions? Le problème, c'est que, justement, elle peut... Le type de recherche, c'est on cherche des solutions ponctuelles pour un problème donné, et donc les solutions qu'on peut trouver éventuellement, même si elles sont très bonnes, sont souvent déconnectées les unes des autres, et donc sont des sources de fausses bonnes idées, ce sont des sources d'action avec un environnement... un impact majeur sur l'environnement, un impact majeur sur les matières en général. Et en plus, les différentes solutions que prône la recherche sont souvent en compétition entre elles. C'est-à-dire que vous regardez un dossier entier sur les questions d'énergie ou vous allez avoir une solution pour telle chose, une solution pour telle chose, une solution pour telle chose, vous apercevez que les solutions prônées, elles ne sont pas compatibles entre elles. Donc, en fait, de ce point de vue-là, la recherche est plus le problème que la solution, c'est-à-dire c'est plus le pyromane que le pompier, dans ce cas-là. Alors, est-ce que la recherche peut fournir par ailleurs des outils d'analyse, des outils alors, dire, par exemple, voilà, on a une crise grave, mais la recherche va nous permettre de l'analyser, et donc, avant d'agir, il faut qu'on fasse plus de recherches. Alors, peut-être, mais très souvent, cette posture-là est utilisée quand on a un déni, et quand on dit il faut plus de recherches, très souvent, il faut aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est souvent... Tout simplement qu'on ne veut pas agir ou qu'on veut retarder le moment où on va agir. Quelqu'un disait, si vous voulez enterrer un problème, créez une commission. On pourrait très bien le transposer dans la recherche. Si vous voulez enterrer un problème, confiez-le à des chercheurs. Et donc, en fait, oui, la recherche a eu des utilités pour alerter sur la crise en cours. Mais est-ce que maintenant l'urgence, c'est surtout d'alerter ou d'agir? Est-ce que c'est par ignorance qu'on ravage la planète? Je ne pense pas. C'est par volonté de profit, volonté de puissance. Je ne pense pas du tout que ce soit une question d'ignorance. Les alertes, il y en a depuis 30 ans, 50 ans, et même pour certaines depuis 200 ans, elles n'ont pas d'effet. Pourquoi? Parce que c'est une question de plus de rapport de force que d'information du public. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que toute recherche... est-ce qu'il faut quand même faire de la recherche, mais faire le tri ensuite? Il faut mieux autoriser toute recherche, mais ensuite, une fois que la recherche est faite, faire du tri? Eh bien, je dis que c'est une manière juste de renvoyer la responsabilité à d'autres, hein, de se défausser sur le futur, mais à d'autres qui ne sont pas plus responsables. Parce qu'une fois que les autres, c'est qui? Ce sont des institutions politiques, financières ou des entreprises ou autres. Elles n'ont pas de raison d'être plus responsables ou ouverteuses que les institutions de recherche. Et moi, je dirais qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, plutôt que se défausser, il vaut mieux agir sur les deux, agir à la fois peut-être en amont et en aval. C'est-à-dire à la fois en amont des pistes de recherche et sur les utilisations. En pratique, d'ailleurs, c'est probablement beaucoup plus facile d'arrêter avant la recherche qu'après. Typiquement, le projet Manhattan, c'était à mon avis, facile à arrêter avant, je veux dire. Par contre, une fois que la première bombe a explosé, la prolifération était immédiate parce que n'importe qui pouvait déjà avoir une idée sur le fait que c'était faisable, que ça valait le coup de le faire si vous vouliez avoir la bombe et avoir une idée déjà des ordres de grandeur de ce qu'il fallait mettre. Donc, je veux dire, toutes les informations essentielles étaient dès la première utilisation militaire de la bombe, le monde entier était averti, en gros, de comment il fallait faire pour proliférer. Et depuis, il y a eu la prolifération, d'ailleurs. Et de même qu'il y a la prolifération dans plein de techniques, c'est très, très difficile d'arrêter la prolifération. C'est beaucoup plus facile d'arrêter en amont. Alors, c'est d'ailleurs ce que disait déjà l'historien Jules Isaac, dont j'ai parlé, en 1922, dans son texte qui s'appelle « Le paradoxe de la science homicide », où il dit « La responsabilité des scientifiques, elle est aussi lourde que celle de parents qui laissent un pistolet chargé à la portée d'un enfant ». Et oui, je vais conclure, j'en ai pour moins de 5 minutes pour conclure, mais je vais m'arrêter d'abord avant pour savoir s'il y a des questions de clarification sur cette partie d'impact indirect. Oui.
La dernière citation, c'était de qui ?
Jules Isaac, « Le paradoxe de la science homicide ». Ça date de 1922, mais ça a été réédité beaucoup depuis. Bon, écoutez, je continue, j'aborde la conclusion, et puis après on aura du temps pour les questions. C'est vrai que j'étais un petit peu long, excuse-moi. Je pense que dans la vie en société, on érige des limitations, c'est normal. La recherche a potentiellement des conséquences majeures sur l'ensemble de l'humanité, ces conséquences sont potentiellement nuisibles, et donc je pense que la question du titre de la conférence, elle a un sens, en tout cas elle mérite d'être posée, et elle mérite d'être soumise à un débat d'opinion, de même qu'on peut imaginer, on peut avoir la question, faut-il interdire la publicité ? Voilà, c'est des questions qu'on peut débattre dans un cadre démocratique. Le problème de fond, ça reste, à mon avis, la volonté de puissance, et il s'exprime beaucoup dans le cadre actuel de notre société occidentale et du modèle dominant actuellement, qui est le capitalisme néolibéral, mais c'est bien au-delà. Tout système politico-économique qui met en avant la volonté de puissance, et même jusqu'à la démesure, pose la question du rôle de la recherche dans cette société-là. Donc je dirais que le bon angle, c'est de raisonner vraiment globalement énergie-matière-environnement, et surtout d'accepter les limites. Et donc maintenant, en partant de cette analyse-là, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas si on peut imaginer une recherche qui favorise l'autonomie, qui favorise la maîtrise des gens face à la technique, qui respecte un rythme lent, qui permette des rétroactions. Je ne sais pas si on peut faire une recherche comme ça. Ce qui me semble surtout important, c'est d'avoir un changement de valeur, un changement de paradigme, un changement de point de vue et de base de la société, de remplacer la compétition par une volonté de collaboration. Je sais que c'est très utopique, mais surtout dans le cadre actuel, mais les exemples des accords de coopération qu'il y a eu en plein cœur de la guerre froide pour le désarmement, ça a montré que des choses qui étaient inimaginables quelques années avant. Je pense que surtout, il faut diminuer massivement nos empreintes matière, énergie, environnement, diminuer massivement les inégalités qui vont avec. Il y a des questions d'organisation sociale qui vont avec. Comment ça peut se faire ? Il faut diminuer la taille de nos activités, la puissance de nos activités, tout ce qui est consommation, énergie, de matière, tout ce qui est échelle de taille de matière, des manières dont on raisonne, ramener tout ce qui est production et déchets à des échelles beaucoup plus locales, et donc des réorganisations aussi sociales et politiques qui vont avec. Pour moi, ça, c'est la définition de la décroissance, c'est quelque chose qui est à la fois nécessaire et qui est désirable, et je pense que c'est notre intérêt bien compris. Voilà.
Merci.
Et je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci François, je pense que cet exposé doit susciter pas mal de questions. Oui.
Bonjour, merci Jacques Bordet. Je reviens sur les catégories de recherche quand même, parce que ça paraît très important, surtout quand tu parlais de décalage entre l'invention, le moment de la recherche et le moment de son application. On peut faire l'analyse des méfaits au moment où on voit les applications. Quand je m'occupais de la stratégie du CNRS, on avait une façon de raisonner sur les catégories de recherche.
Je vais juste demander de faire des questions courtes, si c'est possible, pour qu'on puisse en avoir beaucoup.
Oui.
Oui, si c'est possible.
Bon, est-ce qu'on peut faire la différence entre la recherche fondamentale, c'est la recherche où on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est une des définitions de la recherche fondamentale. On se pose une question pour comprendre le monde et on ne sait pas ce qu'on va trouver, donc on ne peut pas savoir effectivement s'il y aura des conséquences néfastes ou pas. Là, dans cette recherche fondamentale, il y a la recherche qui est liée à des finalités, qui est de la recherche fondamentale mais finalisée, qui s'inscrit dans un programme. Les programmes ont des finalités. Ces finalités, on peut les décrire, on peut savoir quelles sont, est-ce qu'elles sont souhaitables ou pas souhaitables, ces finalités. C'est là où on peut tout de suite dire cette recherche-là, même fondamentale, qui fait partie de ce programme-là, n'est pas forcément souhaitable parce que la finalité n'est pas souhaitable.
Alors, je peux répondre très rapidement à ce point-là. Ça ne permet que de trier des finalités à très court terme. Tous les exemples abondent de recherches fondamentales, c'est-à-dire recherches à visée d'augmentation des connaissances qui ont des retombées en termes d'application, dont beaucoup sont imprévues, et réciproquement des recherches à finalité d'application, c'est-à-dire d'invention et d'augmenter la capacité d'action, qui se retrouvent avec une augmentation des connaissances. Les exemples sont massifs. Les motivations des recherches et les financements des recherches n'ont rien à voir avec l'utilisation des recherches, et surtout dès qu'on raisonne à l'échelle de quelques années ou quelques décennies ou quelques siècles. Donc je pense, je suis très frappé dans les interventions que j'ai faites, parce que ce n'est pas la première fois que je fais cette conférence, que beaucoup de gens ont tendance à dire, est-ce qu'on peut trier les recherches et est-ce que la mienne finalement n'est pas beaucoup plus innocente que celle des autres? Et alors, en termes d'impact environnemental, à chacun de voir, ce qu'il fait et de s'apercevoir que les sciences humaines, par exemple, c'est très frappant, hein, le bilan écologique des sciences humaines est élevé aussi. Mais par exemple, je me rappelle qu'une dernière personne qui m'avait dit « Oui, mais vous voyez, moi je fais de la géographie, alors vraiment le lien avec la croissance ?» Ben non, la géographie a été créée essentiellement pour l'expansion coloniale, elle a été développée aussi pour la colonisation, elle a été massivement du domaine des militaires pendant très très longtemps, au point que pendant longtemps les cartes étaient secret défense. Voilà. Et même actuellement, dire que la géographie serait non liée à l'exploitation minière, au néocolonialisme ou autre, je pense que ça serait se fermer les yeux. Et le nombre d'exemples, y compris en sciences humaines ou de recherches apparemment anodines, qui avaient des conséquences fortes sur la croissance, énormes. Moi-même, à chaque fois que j'ai essayé de mettre des verrous sur soit les recherches que je faisais, soit sur les applications qu'on en faisait, j'étais très très surpris de voir que les premiers qui utilisaient, c'était des gens avec qui j'étais en désaccord fondamental, et dont plusieurs fois, les premiers qui sont venus me voir sont des militaires. J'avais absolument aucune idée que ce que je pouvais faire pouvait les intéresser. Donc, je veux dire, je parle à court terme, hein, c'est-à-dire je fais un truc dès la publication, les premiers qui viennent me voir le mois d'après, c'est des militaires. Voilà, donc ça, c'est l'échelle de temps très courte. Donc je suis vraiment très très surpris, et globalement, tout ce que je dis là, c'est pour la première partie de mon exposé. La deuxième partie, comme je disais, l'analyse bénéfice-risque de l'impact indirect de la recherche est financée en tant que moteur de la croissance. Globalement, l'ensemble de la communauté, certaines activités sont financées plus que d'autres, évidemment, hein, mais si le but était uniquement d'augmenter la curiosité humaine, ça aurait le financement de la culture. Hein, or, le financement est beaucoup plus élevé. Hein. Donc, c'est bien parce que, globalement, l'ensemble de ce qu'on fait en recherche est considéré comme un moteur de la croissance, qu'il y a ce financement-là et que les pays mettent en avant ça pour garder leur place dans la compétition internationale. Donc ça, je pense que c'est vraiment un raisonnement global qui concerne toutes les activités de recherche, et je mets les miennes dedans.
Oui, je reviens à la première partie. La question que tu poses pour la recherche, pourquoi tu ne te la poses pas pour l'industrie, pour l'agriculture ? Pour D'accord. toutes sortes d'activités humaines, où les jeux de puissance et les volontés de puissance, etc., interviendront. C'est une question...
D'accord.
La manière dont tu poses la question, c'est une question anthropologique. Bon, si on est dans l'anthropologie, on est dans des fondamentaux, et le discours n'est pas du tout celui que tu tiens, parce que le discours que tu tiens, c'est un discours de l'économie.
Alors,
j'adhère totalement à ce que tu dis en ce qui concerne l'économie. Quand tu parles de bénéfice-risque, quand la recherche parle de bénéfice-risque, elle ne parle pas de recherche.
Alors, je vais répondre à celle-là. Je voudrais comme dire aussi qu'il y avait des questions qui avaient été posées et que j'avais demandé qu'on mette de côté. On pourrait peut-être les ressortir maintenant aussi, celles qui étaient posées en ligne et là. Alors, je réponds à celle-là et ensuite je prends les questions précédentes. Alors, oui, on peut poser la question pour beaucoup de secteurs de l'humanité. Et je pense que si on veut raisonner en termes de décroissance globale, il faut poser sur différents secteurs. Je l'ai posé, par exemple, pour la publicité. On peut le poser sur l'industrie d'armement. Hein, et puis, effectivement, pour plein de secteurs, on peut les poser. Ce que j'ai essayé de développer... Alors, il y a d'abord deux choses. D'abord, la responsabilité des chercheurs, s'ils disent qu'ils développent un esprit critique, c'est quand même, à mon avis, de commencer par l'appliquer sur eux-mêmes et pas uniquement sur les autres. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de spécificités de la recherche. Comme j'ai dit, l'analyse bénéfice-risque en agriculture, à mon avis, elle est beaucoup plus faisable. On peut connaître les retours. On sait à quelle échelle de temps on se met, on sait quelles personnes sont impactées, et on sait quels sont les inconvénients et les avantages. On l'a fait beaucoup plus facilement. La recherche, comme j'ai dit, il y a des spécificités qui font que cette analyse est difficile. Alors maintenant, est-ce que, du point de vue anthropologique, c'est un mot que j'ai du mal à comprendre, mais en gros, on me dit, l'humanité étant ce qu'elle est, on ne peut pas arrêter la recherche. Oui, alors peut-être, mais si elle est nuisible, on a quand même le droit, par ailleurs, de se poser la question de ses retombées. Et de même que la publicité, on va dire, oui, mais ça, c'est tellement ancré, la volonté de communiquer, de se mettre en avant, qu'on peut pas l'interdire. Mais si, la publicité a été interdite dans beaucoup de systèmes, beaucoup d'époques, dans beaucoup de cas. C'est une volonté politique de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et il y a beaucoup d'activités nuisibles, même qui sont ancrées dans la nature humaine, typiquement le crime, ou la violence, qui sont réprimées par la vie en société parce qu'on décide que leurs conséquences sont plus nuisibles que le fait de laisser libre cours aux pulsions humaines. Donc on peut aussi imaginer de la recherche à petite échelle où chacun en fait chez soi. Là, je parle de recherche institutionnelle, évidemment, de recherche à échelle collective. Donc je pense que la question, même si du point de vue anthropologique, quel que soit le sens qu'on met derrière ce mot, on ne peut pas empêcher les êtres humains d'être curieux, je pense que la question de savoir si l'activité de recherche est bénéfique à l'humanité ou pas est une vraie question de toute façon. Voilà, je pense. Est-ce qu'on peut prendre les autres... C'était quoi les autres questions, alors ? Alors, les régulations actuelles, enfin, pour lesquelles on a des exemples, c'est les régulations des comités d'éthique, les autorégulations des scientifiques et les moratoires. Voilà, c'est les trois catégories un peu de ce qu'on dit. Les autorégulations des scientifiques, en particulier il y a eu la fameuse conférence d'Asie Lomar, au moment où les premières manipulations génétiques ont commencé à apparaître, où les scientifiques sont réunis globalement pour se demander s'il fallait s'autoréguler, et ils ont abouti à un dénominateur commun qui était très très minimal en termes de limitation. Le moratoire, il y en a eu, il y a eu des exemples. Le moratoire, par exemple, 2014 aux États-Unis, eh bien, il avait quand même quelques caractéristiques. D'abord, de ne pas interdire les expériences, mais juste interdire que les nouvelles expériences soient financées sur fonds publics. C'est-à-dire qu'on pouvait continuer les expériences en cours, on pouvait les continuer si elles étaient financées sur fonds privés, ou on pouvait les continuer si elles ne demandaient pas de nouveaux financements. Donc c'était vraiment très très limité. Et il y avait quand même une commission qui était chargée de dire oui ou non, on finance ou pas. Et celle-là, cette commission-là, dès que Trump est arrivé au pouvoir, les scientifiques ont fait pression auprès de lui pour rogner les ailes de cette commission, pour qu'elle devienne purement consultative, pour que son périmètre soit réduit. Et depuis 2017, le moratoire a été vidé de sa substance, c'est-à-dire qu'il n'a plus du tout eu d'effet, il n'y a plus d'expérience dont le financement a été interrompu pour ça. Donc ça, c'est une chose. Les comités d'éthique, bon, je parle sous le contrôle de personnes plus compétentes que moi, pour moi, c'est très clair que la question des comités d'éthique, il y a l'échelle de temps. C'est-à-dire entre le temps d'une recherche et le temps qu'un comité d'éthique se prononce et le temps que ces recommandations prennent effet, et c'est effectivement grand. Et puis le problème aussi, c'est que même si, une fois que vous avez une recherche qui est faite, il suffit qu'une personne rompe le consensus, discrètement dans son coin, pour qu'il y ait prolifération. Et même si une recherche est interdite en amont, ou déconseillée en amont, il suffit qu'une personne la fasse pour que ça devienne faisable. Et une fois que c'est fait, vous êtes en situation de prolifération aussi. On va parler du clonage humain, hein, qui a été quand même... Beaucoup de comités d'éthique se sont prononcés en amont pour interdire le clonage humain. Ça n'a pas empêché une personne de le faire d'être sanctionné pour ça, d'aller en prison pour l'avoir fait trop publiquement et trop tôt. Mais depuis, être sorti de prison et d'avoir repris une activité, et y compris d'être une activité de conseil, donc qui montre que ce n'est pas une personne, ça n'était pas un individu isolé, et ce n'était pas un fou dans son coin. C'était donc il y a quand même une question de voilà, quelle est la marge et l'efficacité à long terme des comités d'éthique. Alors évidemment, s'il n'y en a pas, il y a évidemment beaucoup moins de régulation et beaucoup moins de limites. Donc, mais il y a à peser l'effet des comités d'éthique.
Il y avait...
Oui, mais le problème, c'est que les choses reviennent par d'autres portes. Là, par exemple, c'est au niveau de l'ONU que les questions d'éthique ont été discutées, et la question du clonage a été considérée comme déconseillée et non pas formellement. Donc les choses s'amoindrissent au fil du temps, si vous voulez. À partir du moment où une chose est faisable, les recommandations ont tendance, et c'est peut-être très naturel, au fur et à mesure que les choses sont... Ben écoutez, oui, mais ça pourrait. Mais il y a des questions de rapport de force, des questions de beaucoup de choses qui pèsent.
Il faut dire aussi que les comités d'éthique, comme le CCN, le Comité national d'éthique, sont consultatifs et n'ont pas font des recommandations et aboutissent à des lois, mais qui ne sont pas coercitives. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les projets, par exemple les projets européens, ils passent de la censure devant des experts d'éthique qui donnent ou non une approbation éthique de leur du projet. Et si l'approbation n'est pas donnée, ils ne sont pas financés. Il y a quand même une limitation. Un regard sur les projets financés par les États.
Alors, oui, très clairement, et en même temps, ça ne joue pas sur la deuxième partie de ce que je dis, c'est-à-dire aucun comité d'éthique, à ma connaissance, ne s'exprime sur le fait que la recherche est un moteur de croissance.
Oui, enfin bon...
Parce que ce n'est pas le domaine du comité d'éthique. Ce n'est pas du domaine du comité d'éthique.
Les comités d'éthique, comme par exemple celui du CNRS que je connais et qui continue à travailler sur ces questions, puisqu'il y a un article de la présidente du comité d'éthique, Christine Waville, dans le numéro 2 Raison présente dont on parlait, ils ont une réflexion et ils font des commentaires et des recommandations, mais ils n'ont aucune possibilité d'agir. Ils sont écoutés ou pas, bien sûr. Voilà. Bon, on va peut-être passer à d'autres questions.
Il y avait une autre question en ligne. C'était quoi la question en ligne ?
Sur les moratoires.
Ah, là, j'ai un peu répondu. Voilà. Peut-être, oui.
Il y a une question en ligne aussi qui est... Tu peux répondre rapidement. Tu parles des bénéfices risques de la recherche, mais en fait, tu parles plutôt des bénéfices risques des applications. Les applications de la recherche, ça n'est pas la même chose que la recherche.
Oui. Effectivement, c'est très difficile, je suis d'accord, c'est très difficile de distinguer la recherche en elle-même des applications de la recherche, mais disons, si la recherche étant une activité consistant à produire au minimum des articles avec chaque fois du contenu nouveau, bien au moins, ce qui est dans ces articles, ça c'est au moins la production directe de la recherche. Voilà. Donc après, effectivement, on peut dire... où est-ce qu'on met la limite de ce qu'est-ce qui est de la recherche et qu'est-ce qui est les retombées de la recherche. Et comme je vous ai dit, quand on parle des accidents industriels, quand on met les accidents de Bhopal ou de Beyrouth au passif de la recherche, effectivement, c'est assez loin, parce que ce n'est pas directement une retombée de la recherche. C'est une retombée du système techno-industriel qui a été possible par les activités de recherche.
Une autre question. Oui. Je reviens sur les questions... Tu disais, on ne parle que de recherche publique, mais je crois que c'est un peu naïf de dissocier les recherches publiques de ce qui se passe avec les grosses boîtes industrielles qui font en fait quelque part bénéfice du retombé de la recherche et qui en leur retour peuvent avoir la main quelque part pour orienter la recherche d'une telle manière qu'après, il a des retombées qui rentrent dans les... on génère des bénéfices pour des personnes, donc des bénéfices personnels.
Alors, je n'ai pas dissocié les deux, a priori, recherche publique et recherche privée, en particulier parce que les retombées, elles sont là aussi souvent dans des pots communs. Il y a beaucoup de recherches fondamentales qui a été faite dans des cadres privés et réciproquement. Donc, je pense, et quand on parle de recherche moteur de la croissance, c'est tout ce qui est effectivement... On peut dire tout ce qui est recherche et développement. Hein, ça c'est...
Non, mais il y a une question que je voudrais quand même mettre au clair. On voit depuis un certain moment que les lois du marché rentrent d'une façon très présente et directe dans ce qui est la recherche fondamentale. Oui. Alors, et ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser la question.
Je pense que le cadre du capitalisme néolibéral augmente la compétition, la volonté de puissance, la volonté de croissance et tout ce qui est démesure. Hein. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça ne se limite pas, et il ne suffirait pas de sortir du capitalisme néolibéral pour sortir de ce problème-là. Il y a plein... La volonté de puissance, elle préexistait, elle est dans d'autres systèmes politiques, économiques, et donc c'est l'ensemble de la volonté de puissance qu'il faut remettre en cause, et pas seulement le cadre actuel de ce point de vue-là. Voilà.
Une autre question ?
Alors, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer un peu dans ma conclusion, c'est-à-dire la décroissance, c'est-à-dire un changement complet de cadre de point de vue, c'est-à-dire une volonté de collaborer pour l'amélioration du système à la fois politique, économique et environnemental, et donc une diminution des inégalités, une diminution complète de notre empreinte, et donc ça veut dire des réductions massives de nos activités, à la fois de leur taille, de leur puissance, etc. Donc c'était un changement complet de point de vue. C'est pas ce qu'on nous vend comme transition écologique ou transition énergétique, à mon avis, est plus une aggravation qu'une solution. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la question, est-ce que c'est utopique? Est-ce qu'il y a des exemples passés? Et à quels obstacles ça se heurte? Alors, je vais commencer par les obstacles à quoi ça se heurte. Pour moi, l'idée de croissance verte, et a fortiori l'idée de croissance continue dans un monde fini, se heurte à des obstacles physiques. Alors que l'idée de décroissance se heurte à des obstacles humains. Et les deux sont difficiles à surmonter, mais les obstacles physiques... ils ne sont pas négociables au sens... C'est pas, les lois physiques sont difficiles à négocier au Parlement. C'est pas, alors que changer une société humaine, des exemples de sociétés humaines qui ont changé radicalement, soit de façon progressive, soit de façon rapide, il y en a beaucoup dans l'histoire. Donc des exemples de changement de société humaine, il y en a. Des exemples de renversement des lois physiques, beaucoup moins. Voilà. Donc je pense qu'il faut... ça, c'est une donnée du problème. Donc, après, maintenant, est-ce que c'est utopique ? Oui, comment se sont passés les changements rapides dans le passé? En général, par la conjonction de deux choses, à la fois de préparation, d'un terrain préexistant, et d'un accélérateur de l'histoire, quel qu'il soit. Et donc, encore une fois, des évolutions rapides ou brutales, en général, c'est la conjonction des deux. Donc c'est sûr que si on ne prépare pas les questions de décroissance, on risque d'avoir des choses subies qui peuvent être fortement désagréables, une fois que la croissance verte aura montré toutes ses conséquences défavorables. On risque d'avoir... Alors la question c'est, est-ce que la classe dominante des pays dominants envisage plus facilement la fin du monde ou la fin de son confort matériel? Voilà. Et donc, effectivement, peu de gens vont être prêts à diminuer. Les efforts de décroissance doivent venir des gens qui ont le plus et qui consomment le plus actuellement, et qui tiennent le pouvoir, qui ne sont pas prêts à le lâcher, qui ont des outils de maintien, pour se maintenir au pouvoir, qui sont très forts. Donc, effectivement, la réponse ne peut venir qu'en termes de changement de rapport de force. Mais ceci dit, c'est déjà arrivé dans le passé. Alors, donc oui, des changements qui paraissaient utopiques. Vous regardez, je ne sais pas, moi, il y a quand même beaucoup de systèmes qui, deux ans avant de basculer, personne n'était capable de prédire le basculement. Ça, c'est quand même très, très courant dans l'histoire. Et alors maintenant, est-ce que ce basculement peut se faire vers la décroissance? C'est encore une question très, très différente. Est-ce qu'il y a des exemples de systèmes qui sont autolimités? Alors, il y a beaucoup plus d'exemples de systèmes qui sont autolimités que de systèmes qui ont fait une croissance verte, c'est-à-dire qui ont augmenté leur croissance économique en diminuant leur impact. Voilà, ça, c'est clair. Parce que ça, il n'y en a pas d'exemple. Il y a éventuellement des gens qui localement ont désindustrialisé, mais qui ont industrialisé ailleurs, hein, transféré les industries ailleurs. Donc, au niveau de la planète, il n'y a pas d'exemple de croissance verte. Des exemples de croissance, il y en a à plein d'échelles différentes dans le passé. Des exemples d'autolimitation choisie, il y en a énormément. Alors, ça dépend. Ça passe par un changement de culture, un changement de valeur. J'ai une biblio là-dessus. Je peux en donner à plein d'échelles différentes. À l'échelle individuelle, combien de gens, pour plein de raisons différentes, limitent leur consommation d'alimentaire, par exemple, font un régime alimentaire. Il y en a énormément pour des raisons religieuses, des raisons esthétiques, des raisons de santé. Si votre médecin vous dit qu'il faut vous limiter, il y a des gens qui s'auto-limitent alors qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas. Des gens qui arrêtent de fumer alors qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas. Donc au niveau individuel, psychologique, quand on a une limite qui devient quelque chose d'important, on le fait. Mais au niveau collectif, il y en a beaucoup. Un exemple que j'aime bien, par exemple, c'est l'interdiction des voitures sur les routes. En Suisse, dans certains cantons, jusqu'en 1928, les voitures individuelles étaient interdites sur les routes parce que les voitures collectives, tout ce qui était taxi, ambulance, étaient autorisées, les bus, mais pas de voitures individuelles. Et ils ont voté jusqu'à 10 fois. Et puis là, après, ils ont fini par céder sous la pression et à accepter les voitures individuelles. Donc on peut dire, une société qui décide que c'est plus bénéfique de ne pas avoir de voitures individuelles sur les routes, ça existe. Donc des gens qui décident de ne pas prendre l'avion, c'est un mouvement ou de ne pas manger de viande, c'est un mouvement qui devient massif actuellement, alors que vous l'auriez dit il y a 20 ans, personne ne vous aurait cru que ça viendrait. Donc des autolimitations de société, et la fourrure, c'est même aussi sur beaucoup de gens. Donc je veux dire, des exemples même à plus grande échelle, le Japon qui pendant 2 siècles et demi décide d'arrêter de commercer avec l'extérieur, d'interdire les armes à feu et d'interdire un certain nombre d'activités, c'est un exemple, je ne sais pas si on peut parler d'autolimitation subie. Enfin je veux dire, un pays qui refuse l'arme à feu alors qu'on lui propose cette technologie-là, c'est quand même un exemple qui mérite d'être réfléchi, analysé. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la décroissance.
Une question peut-être qui vous est adressée.
Mais j'ai beaucoup d'autres exemples comme ça, pardon. Oui.
Vous n'avez pas évoqué la récente controverse sur l'intelligence artificielle avec des acteurs majeurs qui ont appelé à freiner les recherches. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors, c'est un exemple assez paradoxal, puisque c'est les acteurs de l'intelligence artificielle qui ont appelé à freiner les recherches. Alors, on peut le prendre à plusieurs niveaux, cet appel-là, soit au premier degré, et de dire, vous voyez, il y a des gens qui sont capables d'appeler à l'autolimitation, même les plus démesurés peuvent appeler à l'autolimitation. On peut le prendre au second degré en disant, ils cherchent à faire une pause pour pouvoir s'assurer des parts de marché en investissant pendant ce temps-là. Il faut prendre plein de choses différentes. C'est juste le fait que, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on puisse avoir dans le discours dominant actuellement, puisque là c'est du discours dominant, une notion d'autolimitation, c'est un exemple d'appel à l'autolimitation choisie. Et encore une fois, les choses sont complexes, et sur ce cas-là en particulier, mais évidemment, l'intelligence artificielle fait partie de la démesure dont on parle actuellement, c'est-à-dire on ne parle que des possibilités que ça offre, on ne nous parle pas des retombées négatives et on ne nous parle pas de l'impact écologique majeur que ça a. Et là, en termes de numérique, ça c'est vraiment... pas seulement de l'énergie, mais aussi pas le bilan carbone, mais aussi très largement les matières et l'impact environnemental, c'est gigantesque. Les centres de serveurs soient en plein Paris ou qu'ils soient dans le Grand Nord, dans les deux cas, là aussi, ça se manifeste par quelque chose de très, très matériel. Je crois qu'il y avait une question là d'abord.
Il faut donner la parole à Hélène Langevin, l'ancienne présidente de l'Union Rationaliste, qui demandait à dire quelques mots par l'intermédiaire de...
Et qui regrette de ne pouvoir, pour des tas de raisons, être là. Alors, elle vous dit qu'évidemment, il faudrait lire le titre de votre exposé, de votre conférence, au second degré. Mais la confusion que l'on entretient sur ce qu'est la recherche ou sur ce que veut dire le mot science est extrêmement dangereuse. De votre texte, celui de Raison présente, si on le prend au sérieux, la conclusion que l'on peut tirer est aussi qu'il faudrait mieux arrêter la recherche. Il sera lu aussi au premier degré par des citoyens de la société civile, s'il y en a dans nos contacts. Et la situation en ce est dangereuse. Donc, vous remarquerez que les scientifiques parlent de moins en moins, on leur donne de moins en moins la parole dans les médias, et que les scientifiques des sciences dures, comme on dit, tentent de moins en moins de la prendre dans les tribunes. Quant aux rares textes signés collectivement, ils traduisent plus la somme des exaspérations de chacun qu'autre chose. Après, plus précisément sur le contenu de votre intervention, je ne crois pas que l'on peut s'interroger sur la science ou la recherche sans préciser de quoi on parle, même si ce faisant, il faudrait accepter d'être un peu schématique. Toujours Hélène Langevin Joliot, je le serai donc, et même ringarde, quand bien même chacun savait que les frontières entre catégories étaient loin d'être étanches, on distinguait recherche fondamentale, recherche appliquée, programme de développement technologique. On rangeait dans la première catégorie les termes de science et de connaissance ou de recherche fondamentale. Les connaissances se partagent et doivent être partagées. Elles constituent un patrimoine commun de l'humanité. Et la découverte ne se programme pas. Elles émergent de la liberté du chercheur. Elles, c'est les connaissances. La science n'est ni bonne ni mauvaise, disait-on. Ce sont les applications de la science qui le sont, celles justement qui devraient impliquer rationnellement la société au-delà de la science.
Est-ce qu'on prend ça comme conclusion ou...
Oui, mais tu peux commenter, tu peux...
Je ne sais pas, on a jusqu'à quelle heure? Parce que je pense que ça peut faire une très bonne conclusion. Aussi.
Voilà. Si tu... Moins de 2 minutes.
Est-ce qu'il y avait encore une question?
Je voulais juste faire un lien avec la démographie. Est-ce que vous croyez que décroissance est associée avec moins de monde sur la Terre?
Alors, c'est une vraie question. La question majeure actuellement est la consommation par personne des plus riches et d'un grand nombre des plus riches qui inclut une grande partie de la classe moyenne des pays. Quoi ? Mais la question du nombre de personnes joue aussi, clairement. Et la question de la limitation des naissances, par plein de méthodes différentes, y compris par l'éducation ou par la contraception et par d'autres méthodes qui n'ont pas d'inconvénients graves pour l'humanité, oui, c'est probablement quelque chose de très important. Mais, alors, oui, en même temps, les limitations des naissances peuvent se faire de beaucoup de manières différentes, avec plus ou moins d'efficacité, mais tant qu'il y a une incitation nataliste en termes de compétition, comme on a actuellement et comme on a clairement dans notre pays, toutes les méthodes que vous pouvez développer, recherche ou pas recherche, vont être largement inopérantes. Et actuellement, on est dans un contexte où il y a beaucoup de compétition démographique. Voilà, donc il faut aussi un accord de désarmement démographique, à mon avis, en priorité.
Oui, merci beaucoup et je suis très contente que tu aies aussi exprimé cette opinion à laquelle c'est difficile de ne pas adhérer et je pense comme un petit peu tout le monde, je suis mal à l'aise parce que je me dis mais quand même, la recherche c'est important, même si on voit que c'est très très dangereux d'après ce que tu démontres et je pense que, et tu n'en as pas parlé du tout, dans la pratique de la recherche et dans la pratique scientifique, ce qu'on apprend, c'est aussi une manière de raisonner scientifiquement. Et je ne sais pas où cette manière de raisonner scientifiquement peut s'apprendre ailleurs qu'il resterait l'enseignement si on abandonnait la recherche, mais que restera-t-il de l'enseignement quand on aura abandonné la recherche ? Et peut-être, et je suis très contente que tu aies mis un mot aussi sur notre ennemi, la volonté de puissance, c'est vrai. Et c'est vrai que la classe dirigeante, n'a pas beaucoup de formation à la recherche et à la manière, la façon, comment dire, au raisonnement scientifique. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui nous manque beaucoup pour analyser la situation telle qu'elle est et prendre des décisions.
Alors, la création d'un esprit critique et la transmission des connaissances, c'est deux fonctions effectivement qui sont... qui sont pas exclusives de la recherche. Hein. C'est, la recherche y contribue, mais c'est pas exclusif. Et vous avez, ça a été, dans le passé, ça a été aussi assigné à la théologie, à la philosophie, même à la rhétorique aussi, à beaucoup de secteurs qui n'étaient pas nécessairement liés à la recherche. Actuellement, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur la recherche là-dessus. Je pense que c'est pas... c'est clairement une des retombées positives de la recherche et c'est pas pour ça que nécessairement qu'il faille que la recherche puisse être considérée comme indispensable. On peut développer l'esprit critique autrement, mais c'est sûr, ça y contribue. Et moi, dans ma formation, évidemment, la recherche a joué un rôle fondamental. Le fait d'avoir des choses nouvelles, mais il y a des fois où on se demande, par exemple, quand on fait de la recherche en littérature, j'ai pas beaucoup parlé de recherche en littérature, qui, elle, contribue peu à la croissance, je suis d'accord. Quand on fait de la recherche sur la virgule chez Georges Perec ou chez Balzac, on a l'impression qu'on développe de l'esprit critique pour le plaisir de l'esprit critique. Hein, c'est un peu... qu'on va créer des docteurs dont la capacité sera de réfléchir sans nécessairement qu'il y ait une application, un intérêt direct au produit de leur recherche. Et donc ça, on peut se poser la question, effectivement. Mais ça, dans ces cas-là, l'apport de la recherche dans ce cas-là est le même qu'a pu avoir la philosophie ou la théologie, je pense. Voilà, c'est dans le même type de secteur.
On s'éloigne un peu du sujet. Enfin, je pense qu'il est quand même temps maintenant de clore cette séance. Et merci beaucoup à tous les participants pour avoir posé des questions et animé le débat. Et merci beaucoup à François.
Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup.